France Musique. France Musique.
Ça m'a toujours donné envie de chanter « You must believe in spring » à Michel Legrand, inspiré bien sûr, c'est une adaptation bien sûr de ce qu'il a fait pour Jacques Demy, les Demoiselles de Rochefort, et c'est Bill Evans qui a conçu cette chose. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
Vous croyez au printemps ?
Oui, j'aime ce titre, ce morceau de musique pour le titre, entre autres. Oui.
Croire au printemps, ça veut dire quoi quand on est Catherine Meurice, croire au printemps ?
Oublier, se débarrasser un petit peu de ce qui s'est passé en 2013, de la violence, et puis se dire qu'on peut redémarrer, renaître, se reconstruire, avancer de nouveau, rire de nouveau, être joyeux de nouveau.
C'est le cas ?
Oui. Notamment grâce à ce livre.
Le rire, il est revenu quand dans votre vie ?
Le rire n'a jamais été complètement absent, heureusement. Il était sérieusement abîmé l'an dernier, mais il est revenu grâce à mes proches, grâce à plein de choses, grâce à la réalisation de cet album aussi.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas votre nom, c'est possible, vous êtes dessinatrice, vous êtes illustratrice, vous étiez l'une des grandes plumes et l'une des rares femmes après tout de l'équipe de Charlie Hebdo. Et je vais dire les choses telles qu'elles sont, vous n'avez pas été tuée le 7 janvier 2015 parce que vous êtes arrivée en retard et vous expliquez à coups de dessin et avec quelques mots pourquoi vous étiez au lit, vous rêviez, vous cauchemardiez parce que votre amoureux vous avait dit « je retourne chez ma femme » et tout ça est expliqué et
c'est dessiné. C'est mieux que je retourne chez ma mère.
Oui, c'est mieux que je retourne chez ma mère. Et on voit une petite bonne femme essayer de lui dire « mais non, reste avec moi ». Bon bref, vous avez la tête pleine de ça, vous arrivez en retard et d'une certaine manière, évidemment, tant mieux pour vous puisque vous arrivez vraiment au moment où ils sont en train de monter, ces tueurs, et vous vous cachez. Et vous avez donc dans les oreilles le bruit des kalachnikovs. Et c'est très beau ce que vous dessinez parce que vous êtes d'une extrême délicatesse. On n'est pas dans le compte-rendu minute par minute, seconde par seconde, non. On voit une femme qui se cache les oreilles et qui se dit « il tire en l'air ». Et je me suis posé, comme tous les lecteurs, la question de la représentation. Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on ne montre pas ?
Je ne me suis pas vraiment posé cette question parce que quand j'ai commencé à dessiner, déjà je n'avais pas en tête l'idée de faire un livre. Il m'était absolument impossible de penser au livre. Il fallait déjà que j'essaie de penser à moi, aux victimes, aux proches, à plein de choses. Et j'ai pensé au dessin. Comment récupérer le dessin ? Donc j'ai d'abord dessiné pour sauver ma peau, pour récolter des fragments de moi qui m'échappaient. Et les séquences sont arrivées comme ça, les séquences dessinées sont arrivées comme ça, un peu à l'instinct. Et c'est vrai que cette scène du 7 janvier, du matin du 7 janvier, ça a été la plus difficile à dessiner. D'ailleurs, je l'arrête au moment des tirs des Kalachnikovs et je poursuis la séquence par un moment onirique, en fait, où j'ai recours à l'art, où je traverse une galerie d'art où la peinture a déserté les cimaises, en fait, la beauté est absolue. absente des murs et je suis comme un passe-muraille. Je traverse les murs sans plus rien ressentir et je vais m'enfoncer dans le tableau de Munch, Le Cri. Et voilà, donc finalement, ce tableau, Le Cri, me rend bien service pour essayer d'exprimer ce qui était très difficile à exprimer et à dessiner, c'est-à-dire l'effroi et l'incompréhension totale face à un événement que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Mmh.
Aux dessinateurs de presse, on dit toujours « est-ce qu'on peut rire de tout ?» Alors Cabu répondait « oui, on peut rire de tout », etc. Bon, souvent c'est une question récurrente, mais à vous qui avez vécu la mort de vos amis sans voir leur corps ensanglanté par terre, hein, vous n'avez pas assisté à la boucherie ni à l'après-boucherie, ça d'une certaine manière, ça vous a été épargné, tout est passé par les oreilles. Est-ce qu'on peut dessiner tout ? Est-ce qu'on peut tout dessiner ? Est-ce que à l'encre de Chine et à la plume, parce que souvent vous travaillez comme ça, puis aussi à l'aquarelle, on peut tout dire.
On peut tout dire. Après, je ne peux pas tout dessiner parce que ce serait indélicat, ce serait tomber dans le voyeurisme, le pathos. Enfin, mes réflexes de dessinatrice de presse, justement, me permettent d'éviter de tomber dans le pathos ou dans des choses vraiment laides à dessiner. Et d'ailleurs, cet album raconte ça, la quête de beauté et comment s'éloigner de la laideur. Donc, bien sûr, moi, je considère comme Cabu. C'est vrai, Cabu me le disait souvent, on peut rire de tout. Mais après, oui, il faut le faire avec délicatesse ou colère ou intelligence, je ne sais pas. Mais c'est pas en tout cas le dessin dans cet album, j'ai fait un tri s'est opéré en fait assez naturellement. J'ai choisi de dessiner certaines scènes et pas d'autres, mais sans jamais me censurer. Disons que j'ai dessiné ce qui devait être dessiné, ce qui m'aidait moi à me remettre debout en fait. Mmh.
La musique, ça vous a consolé depuis le 7 janvier ?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'elle a été absente toute l'année 2015. L'année a été silencieuse. Hein. C'est vraiment. Il y a eu un immense silence après le fracas des Kalachnikovs. Et ce silence a été le silence de l'année 2015. Et il a fallu le repeupler, ce silence. Alors, c'était à la fois un silence autour de moi. Je n'entendais plus ce qu'on me disait. Et aussi un silence intérieur. Et c'était paradoxal parce que j'avais aussi plein de pensées qui cognaient contre ma tête. Et il a fallu que je ressorte quelques phrases. Le dessin m'a vraiment permis de retrouver la parole, en fait, la pensée. Et la musique est arrivée en fin d'année 2015, grâce à Bach notamment.
Catherine Meurice, je vous promets que Bach, on l'écoute la prochaine fois. Mais là, à mon avis, c'était pas Bach.
Non, c'était Falvetti. Le déluge universel. Encore un titre intéressant.
Le déluge universel. C'est un petit peu ce qui se produit dans votre vie, oui, effectivement.
Oui, c'est ça. Non, j'adore Falvetti. Ça me donne envie de danser. Ça me met en joie, cette musique.
Oui. Ah, mais c'est bon signe, c'est que vous allez bien, Catherine Meurice.
Mais oui.
À qui vous devez cet état de joie ce matin?
À vous?
Oh ben là, vous êtes un petit peu,
excessive. Non, mais vraiment, enfin, ce livre, une fois de plus, oui, réaliser ce livre m'a fait du bien. Et
ce livre qui raconte que vous avez vu certains psychanalystes,
oui.
Mais surtout que vous vous êtes mise en quête de beauté. Alors, la beauté était déjà dans votre vie parce que vous êtes dessinatrice, illustratrice et aussi une grande lectrice. La littérature, vous fait grandir. Et ça ne date pas du 7 janvier.
Oui, exactement. J'ai toujours parlé des grands écrivains, des grands peintres dans mes ouvrages précédents. J'adore les dépanthéoniser, les faire descendre de leur piédestal pour les faire rentrer avec nous, m'amuser avec eux, me goûter leur esprit, leur intelligence. J'adore ça.
Vous êtes une proustienne.
Oui. Proust, comme je le dis dans ma bande dessinée, mon auxiliaire de vie. Je crois que c'est lui qui poussera mon petit fauteuil roulant quand je serai à la maison de retraite.
Alors, c'est important cette expression. Vous dites mon auxiliaire de vie, vous ne dites pas je suis fan d'eux.
Non,
employez cette expression auxiliaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, c'est l'auteur qui m'accompagnera toute la vie, ça j'en suis certaine. Et j'ai eu très peur de le perdre d'ailleurs en janvier 2015. Comme je raconte dans l'album, j'ai perdu de la mémoire après le choc dû à l'attentat. Et une amie m'a emmenée à Cabourg et m'a lu du Proust à Cabourg. On a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Pour essayer de faire revenir la mémoire.
C'est très drôle d'ailleurs la scène, je vais me permettre de la raconter, parce que vous êtes dans un très bel hôtel.
Oui, le Grand Hôtel.
Et vous mangez vos madeleines histoire de ressusciter votre mémoire, parce qu'effectivement vous avez perdu une partie de votre mémoire et ça ne revient pas, et quand on vous donne la note, vous trouvez ça très très cher pour ne pas retrouver sa mémoire.
Oui, je trouve ça un peu gonflé, ça ne marche pas, le souvenir involontaire, là, ça ne réapparaît pas. Et c'est une scène qui est au début du livre et qui indique voilà, que cette quête de mémoire va commencer. Et oui, je me souviens de l'effroi que j'ai ressenti en constatant que Proust, que la littérature ne me faisait plus de bien, en fait, que ça glissait complètement sur moi, que mon imaginaire était bloqué, c'est-à-dire que mon métier disparaissait, en fait. Je n'étais plus rien, vraiment, plus d'imagination, plus rien, plus de pensée, plus de souvenirs.
Vous pensiez même être morte comme vos amis d'une certaine manière,
oui.
En parallèle, quoi, comme
oui,
un miroir.
Oui, bien sûr, et je crois encore aujourd'hui qu'une partie de moi est restée avec eux.
Quelle partie?
L'insouciance déjà, et puis une partie de mon métier, parce qu'aujourd'hui je ne fais plus de dessin de presse politique comme je l'ai fait avec cette équipe là qui a été décimée. J'adorais rire avec eux, je me suis rendu compte que je faisais ce genre de dessin de presse pour eux, pour être avec eux, pour qu'ils me fassent rire, pour que je les fasse rire. Et tout ça s'est écroulé le 7 janvier, et pour moi aujourd'hui continuer le dessin de presse ça n'a plus de sens. Donc je me tourne vers la bande dessinée, que j'avais commencé déjà il y a quelques années, mais là j'ai besoin du temps de la bande dessinée, hein, plus long, du temps de la littérature, en fait, pour me remettre sur pied.
Ouais. D'autant que vous illustrez aussi des livres d'auteurs et des livres pour enfants.
Oui, alors moins, parce que le dessin de presse et la bande dessinée a pris beaucoup de temps dans ma vie, mais j'ai l'intention de m'y remettre. Cet album La Légèreté m'a, comment dire, a réenclenché le désir, en fait, plein d'envie. J'ai envie de faire plein de livres, de faire de nouveau plein de découvertes, de me nourrir de nouveau de plein de choses, du savoir des autres, de la curiosité des autres. J'ai l'impression dans La Légèreté que j'ai été dans ma bulle toute seule là, dans une grande solitude. J'ai traversé ce livre, j'ai fait ce livre en traversant une bulle comme ça intérieure. Et là maintenant, je m'ouvre aux autres et ce bouquin s'ouvre aux autres.
Est-ce que vous êtes retombée amoureuse?
Oh, mais on parle de ça sur France Musique. Ouais. Je suis tombée amoureuse de.
À 7h52.
De Falvetti, de Bach. Comment est-ce que je peux botter en touche?
Est-ce que je peux donner votre numéro de portable aux auditeurs?
Non, mais vous pouvez écrire.
On peut vous envoyer un mot.
Hein, mais oui.
Vous allez en recevoir, je les transmettrai. La couverture de La Légèreté est très belle, c'est de l'aquarelle et c'est une petite bonne femme qui se cache un peu le visage et qui marche sur la plage. Ça revient souvent, la plage, la mer, l'océan, comme si la nature était aussi importante que la culture pour Catherine Meurice.
Oui, véritablement. C'est vrai que là, je marche sur une dune, on a l'impression que je marche sur la lune, sur une autre planète. Et oui, je me cache le visage, mais c'est pas vraiment que je me cache le visage. En fait, je marche en regardant le sol, et je crois que j'ai eu cette attitude pendant toute l'année 2015. J'ai énormément marché. Je marche pendant tout l'album. Hein, je m'assois à la fin, tout à la fin.
Ah oui, on vous voit beaucoup seule d'ailleurs. Hein.
Oui, c'était une réalité. enfin, à la fois, j'étais très entourée en 2015, mais j'étais, comme je le disais tout à l'heure, vraiment dans une bulle. Et oui, oui, c'était un grand moment de solitude. Mais j'ai trouvé une ressource dans la contemplation du paysage, parce que je crois que, déjà, je le raconte dans la séquence qui inaugure l'album et on en voit, la couverture aussi fait partie de cette séquence là, où je suis donc face à l'océan, où j'ai l'impression de revoir de voir l'océan pour la première fois, en fait. Et j'ai l'impression que le paysage me transperçait littéralement, en fait, que j'étais dedans. Enfin, c'était un véritable miroir. C'était stupéfiant comme expérience, hein, vraiment. Et j'ai essayé de la retranscrire. Et c'est vrai que face au paysage, on est face, mais on est aussi dedans. J'ai l'impression qu'on peut s'oublier totalement. Et en même temps, on se retrouve, on se reconnaît. Et c'est ça que j'ai cherché, en fait, à travers le paysage, la nature, marcher sous les arbres. J'ai été très attentive à toutes les émotions que je pouvais retrouver. Et je les ai consignées, en fait, dans cet album, pour ne plus me perdre, en fait, après avoir été totalement perdue.
Catherine Meurice, voilà le cadeau que vous attendiez. Devoir chanter, comme on dit dans notre jargon. Chanter, Herbert Meurice, extrait de la Passion selon saint Matthieu de Bach. C'est l'un des choix de notre invité ce matin, la dessinatrice Catherine Meurice, qui sort un album qui s'intitule La légèreté.
Le Festival de Saint-Denis du 26 mai au 24 juin, dans le cadre exceptionnel de la Basilique. Retrouvez en ouverture la 3e symphonie de Mahler par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Et en clôture, la célèbre 9e symphonie Hymne à la joie de Beethoven avec l'Orchestre National de France dirigé par Michele Mariotti. Deux concerts à suivre en direct sur France Musique. Toutes les infos sur francemusique.fr. Vincent Josse, la matinale, France Musique.
Notre invitée est Catherine Meurice, dessinatrice, illustratrice, qui a travaillé à Charlie Hebdo et qui est arrivée en retard ce fameux 7 janvier et qui raconte comment on vit bien ou mal, plutôt mal d'abord et puis bien ensuite depuis un tel événement, et comment on est en quête de beauté. Concrètement, on est aussi entouré de policiers, de gardes du corps quand on a subi une telle violence. On vous protège en France et vous avez été heureusement protégée, mais c'est lourd aussi d'un seul coup de voir sa liberté diminuer, Catherine Meurice.
Oui, c'est lourd. On est suivi en permanence. Et pour un dessinateur, c'est enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est terrible. Et pour un dessinateur qui a besoin d'être seul, de rêver, de retrouver la rêverie, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc il a fallu faire avec. Oui.
Et ça se dessine aussi.
Et ça se dessine, mais le dessin permet tout, permet de tout adoucir, de rire, de oui, de rendre les choses un petit peu plus légères. Mais oui, ça se dessine. Oui, vous voulez parler des lapsus lacaniens.
Des lapsus merveilleux, parce que là, on sent quand même que vous venez de Charlie Hebdo. Vous m'autorisez à lire des...
Bien sûr.
Ça semble anecdotique, mais ça l'est pas, parce que lire ça, c'est aussi donner un aperçu de votre humour, et puis de ce que vous voulez faire aussi en vous racontant depuis le 7 janvier. C'est drôle, parce que vous rougissez, là.
Non, mais c'est très difficile de lire un dessin aussi au micro.
On va tenter, hein. J'adore faire rougir une dessinatrice qui a bossé à Charlie Hebdo pendant des années. Tiens, dites-vous, un SMS d'un des 150 flics que j'ai croisé depuis le 7 janvier. Alors vous lisez et le gars vous dit « Bonjour, j'espère que vous allez mieux. Ça vous dirait un soir d'aller boire sexe ou trois verres ?» Et là, il en rajoute un « Pardon, erreur de frappe, deux ou trois verres. Désolé, vu le contexte, ma libido est au point mort. Pas de problème, répond-il. » Non, c'est vous. C'est,
moi, je dis oui.
C'est vous.
Ma libido est au point mort.
Voilà,
moi,
vous
je
répondez,
là au micro.
Désolé. Vu le contexte, ma libido... Et il répond, pas de problème, portez-vous burne. Pardon, portez-vous bien.
Et tout est vrai. Tout est vrai, Vincent. Je n'ai rien. Non, mais dans cet album, tout est malheureusement vrai.
Oui.
Et j'aurais aimé que ce livre n'existe pas, mais même ces moments d'humour, ça, là, j'ai rien.
Et est-ce que ces lapsus merveilleux, est-ce qu'ils vous font rire au moment où vous les recevez ou vous n'êtes pas en état de rire?
Si, j'ai ri, c'était des... Il y avait vraiment... Mais dès le 7 janvier, c'était très étrange d'ailleurs, il y avait des moments comme ça de... Des minuscules bulles de légèreté, enfin qui n'étaient pas, c'était pas la légèreté, c'était des hoquets, des réflexes, de je sais pas, des pulsions comme ça. Je me souviens avec Luz, on était à la fois dans l'effondrement total et puis un rire pouvait surgir, notamment quand on regardait les dessins de nos copains qui avaient été tués le jour même, la veille, enfin dans les jours qui ont suivi. Voilà, on feuilletait leurs livres, on regardait leurs dessins, on avait besoin d'être encore avec eux, quoi, vraiment. Et on éclatait de rire. En regardant, et ces rires étaient suivis de larmes immédiatement. Ça a été ça, voilà, tous les premiers mois de janvier, c'était épuisant. Enfin, c'était un état, c'est indescriptible en fait. Il m'a vraiment fallu une bande dessinée pour essayer de pas devenir folle. Enfin, d'essayer de remettre les choses à leur place, d'essayer de figer ces moments de douleur, mais aussi de début de joie.
Luz a survécu lui aussi parce qu'il est arrivé heureusement en retard. Je crois qu'il fêtait son anniversaire et que sa femme lui avait fait un petit gâteau.
J'ai eu peur, j'ai eu une petite... J'entends, j'ai...
Oui, non, bref. Enfin, ça c'est leur affaire. Vous me connaissez, j'en parlerai pas. Et il est arrivé en retard. Et lui aussi a sorti une BD récemment qui s'appelle Catharsis. Est-ce que vous auriez pu aussi prendre ce titre-là, vous, plutôt que
non.
La légèreté?
Alors Catharsis, il l'a sorti l'an dernier. Là, cette année, le livre qu'il a publié, c'est Au vous, frères humains, qui est une adaptation d'Albert Cohen. Catharsis, non, je n'aurais pas utilisé ce terme-là et je sais que Luz n'est pas dupe non plus. Il a eu besoin de ce mot, comme moi j'ai eu besoin du mot beauté, alors que je n'ai pas mis en titre de mon livre, mais ce mot beauté revient dans mon livre. Oui. Je m'accroche à ce mot, je m'accroche au mot légèreté. On s'est raccroché comme ça à des choses, à des mots, à des amis. Il fallait, voilà, sinon on sombrait. Luz, dans Catharsis, qui est un album bouleversant, raconte un état et moi je raconte un processus. Donc nos livres ont énormément de points communs et ils ont aussi cette différence-là, voilà, qu'on n'a pas mis le même temps à le faire. Luz a eu besoin de pousser ce cri très rapidement et il s'est dessiné dans le chaos. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'abord de faire un état des lieux, de voir où j'en suis et ensuite je reprends le stylo et je peux dessiner.
Ça vous fait du bien de le voir ou ça vous rappelle le 7 janvier
Luz? Ah non, j'adore le voir. Évidemment, ça me rappelle le 7 janvier. Mais non, j'ai besoin de le voir. On a besoin de s'entendre, voilà, de se parler au téléphone. On est. J'ai l'impression que c'est mon frangin, quoi. Et vraiment, il m'a aidée en janvier parce que bon, on l'a beaucoup vu dans les médias. Hein, mais alors que moi, je me suis tue et j'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais ce qu'il disait pour moi, c'était vraiment, c'était Charlie. Quand il parlait, il était à la fois Cabu, Charbe, Honoré, enfin tout le monde. Et je trouve qu'il a très bien parlé et il a été vraiment un phare pour moi. Et voilà, donc non, je l'use, il est... Oui, c'est un frangin.
C'est lui qui, à Charlie, pendant les conférences de rédaction, montrait toujours son slip.
Non, pas toujours, pas toujours. Mais j'ai le souvenir de certains bouclages où vraiment... Vraiment, on a beaucoup ri, ouais. Ouais, ouais.
Vous étiez quand même au milieu d'un parterre très masculin. Est-ce que c'était un parterre un peu machiste ?
Non, alors je n'ai pas du tout souffert du machisme. Non, parce que j'étais entourée de gens. Alors, c'était essentiellement des mecs, bien sûr, surtout. Enfin, les dessinateurs étaient des hommes, mais c'était des gens intelligents. Donc, si jamais ils pouvaient faire des blagues un peu sexistes, déjà, ils pouvaient se rendre compte tout seuls de leur connerie. Et ou alors, les filles, on était là pour ça, pour leur dire que là, c'était un peu gonflé. Mais j'ai vraiment. Non, j'ai pas souffert de ça. Déjà, Cabu était très heureux. Enfin, Cabu Wolinski était très heureux qu'une fille arrive. Il y a 10 ans dans l'équipe, j'étais soulagée aussi. Et puis j'ai eu des retours de lecteurs aussi qui étaient contents. Donc non, j'ai vraiment pas. Alors bien sûr, c'est une équipe masculine. Wolinski faisait énormément de sous-entendus, etc. Mais enfin bon, j'avais de la répartie, donc je pouvais répondre. Et puis tout finissait toujours dans le rire. Et puis, quand on lit Charlie, on y lit aussi des combats féministes.
Wolinski montrait pas son slip, mais quand il allait aux toilettes, il disait tu me suis.
Ah oui, il m'a dit des horreurs, des horreurs. Il m'a laissé des dessins horribles aussi, mais géniaux. Non, ils étaient fabuleux tous. Hein. C'était l'histoire du dessin de presse et puis plein d'autres choses encore. Oui.
Parmi les choses qui, j'aime bien ce terme, qui vous consolent et qui vous ont consolé depuis le 7 janvier 2015, il y a la musique et notamment Handel peut-être aussi puisque c'est l'un de vos choix.
Ah oui, oui, les opéras de Handel notamment. J'ai réalisé beaucoup d'albums de bande dessinée en écoutant Handel. C'est une musique sur laquelle je peux me concentrer. Alors, la légèreté a été faite dans le silence, mais mes albums précédents ont été faits en compagnie de Handel. Ah oui, ça me bouleverse. Je crois que je les connais tous par cœur, les opéras de Handel.
Vous avez choisi lequel ?
Jules César. Ouais, oui, vraiment un morceau qui me bouleverse.
Le lieu où la poésie m'a servi le plus, c'est dans les camps de concentration où j'ai passé presque un an. Eh bien, quand on avait du mal à y résister, à y tenir, à y dormir, un long poème qu'on se récitait à soi-même, et qu'on se récitait, mais pas seulement on l'imaginait, mais on en reprenait le son, ça permettait de tenir le coup. Donc je pense effectivement que le rôle de la poésie n'est pas seulement de donner des concepts ou donner même des idées, mais de donner des rythmes et par conséquent de l'émotion. On était très mal vêtus et par conséquent l'hiver on souffrait beaucoup du froid. Alors le rythme poétique a quelque chose d'une flamme et la flamme en principe ça réchauffe.
Stéphane Hessel, qui a connu les camps et qui se réchauffait à la poésie. Eh bien, en lisant La Légèreté, les dessins et les textes et votre situation, ce que vous racontez de vous, j'ai pensé à lui et à ce propos-là. Est-ce qu'on est proche, même si évidemment les tragédies ne sont pas comparables, mais en tout cas, la souffrance l'est peut-être.
Oui, ça me touche beaucoup cet extrait. Ça, oui, cette idée de flamme. Je me disais que en faisant cet album, La Légèreté, j'ai mis sous cloche l'épouvante, en fait, cette chose glaçante qui était le 7 janvier. Et je l'ai mise dans une petite boîte qui est le livre et dont j'ai choisi le papier, un papier très doux au toucher. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, un papier très chaud. Et voilà, j'avais besoin de renfermer cette glace-là dans un écrin un petit peu plus chaud. Et...
Vous avez appris à voir, à regarder.
J'ai pas appris à voir et à regarder. J'ai l'impression que mes yeux ont grandi après le 7 janvier. En fait, c'est le choc qui a provoqué ça, je crois. Il me restait plus que la perception. Vraiment, j'avais plus que l'intuition et la perception, puisque tout le reste s'était évanoui, le raisonnement, la concentration, la mémoire. Et donc, je voyais tout avec des yeux gigantesques. Et c'est vrai que, comme je le dis à la fin du livre, maintenant que je vais mieux, je vois moins bien, je vois comme avant, en fait. Mais je me souviens d'avoir vu intensément. Et je veux garder ce souvenir et rester comme ça, curieuse, attentive aux choses, et pour être touchée et encore plus, encore mieux.
Ça aussi, ça fait du bien.
Oui.
Ça vous évoque quelque chose ?
Attendez, j'essaie d'identifier.
Juste des oiseaux dans la nature.
Mon rêve serait de savoir identifier tous les chants d'oiseaux.
Ah oui. Ouais. C'est une grive musicienne. Et c'est d'ailleurs le surnom de Nicolas Lafitte. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vincent Josse.
Ça vous va bien ma petite grive musicienne ?
Oh merci mon gros merle.
On va descendre avec Catherine Meurice qui ne connaît pas le studio 107 et qui va le découvrir en compagnie de qui ce matin ?
Et je suis avec l'ensemble Ozonia qui sort un disque consacré à des concertis de Bach. Un véritable coup de cœur pour ce disque lorsqu'on l'a reçu dans la boîte aux lettres de la matinale. Et toute l'équipe de l'ensemble est réunie à Paris pour un concert ce soir au centre Wallonie-Bruxelles. On leur a donc proposé de venir jouer ce matin en direct. Et les voici avec le concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach, le deuxième mouvement.
Thank you.
Deuxième mouvement, Andante du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach, BWV 1041, Frédéric Haas, Mira Glodeanu, Bénédicte Pernet, Emmanuel Dauvin, Benjamin Lescouade, Geneviève Curver, James Munro, ils sont très très nombreux, l'ensemble Ausonia en direct sur France Musique.
Bonjour.
Installez-vous, Catherine Meurice. Je vous présente Frédéric Haas, Mira Glodeanu, directeurs musicaux tous les deux de l'ensemble Ausonia. Ça fait bien longtemps que vous jouez ces œuvres de Jean-Sébastien Bach, que vous jouez ces concertis. Pourquoi décider de les enregistrer aujourd'hui, Frédéric Haas?
À vrai dire, ça faisait pas mal d'années que nous souhaitions le faire, puisque c'est vrai que c'est des œuvres qui font partie de notre vie musicale, de ce que nous aimons à jouer depuis très très longtemps. Et pour diverses raisons, il s'est trouvé que ce projet a été reporté. Et nous sommes très heureux de le faire maintenant, parce que comme ça fait effectivement beaucoup d'années que nous le jouons, nous sentions assez prêts en fait à proposer quelque chose qui ait peut-être du sens.
Et puis, vous les avez beaucoup joués en concert. L'enregistrement est quelque chose d'important pour vous, pour l'ensemble, pour vous deux en tant que directeurs musicaux. Est-ce qu'on a besoin de jouer, de digérer avant d'enregistrer, Mira?
Oui, je pense que c'est essentiel. C'est bien pour cela qu'effectivement, des œuvres aussi importantes comme les concerti du Bach, puisque malheureusement, il ne nous en a pas laissé plus, en tout cas pour le violon. On n'en a que deux, trois, quatre, si on commence à reconstituer les choses. On se dit qu'il y a un moment dans la vie où on les découvre, on est émerveillé. J'avais 10 ans que j'ai découvert le concerto en la mineur. J'étais moins émerveillée, mais quand même impressionnée par cette musique. Puis on les revisite, on les rejoue. Et à un moment donné, il y a comme une sorte de plaisir du musicien que de se dire on a parcouru un chemin avec ses œuvres, il est temps de laisser une marque, une petite trace qui, avec le temps, s'effacera ou restera. Peu importe, par rapport à notre chemin personnel, elle restera.
Catherine Meurice, Frédéric Haas dit quelque chose de très beau. Vous avez une très belle manière, d'ailleurs, Frédéric, de parler de la musique. Je voudrais que ne demeure aucune note qui soit seulement une note. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Frédéric ?
Ben oui, ça, je crois que c'est notre travail d'interprète, finalement. Bon, la musique qui nous reste, là, c'est une, un bout de papier avec des notes écrites dessus. C'est pas encore de la musique. La musique, ça devient de la musique quand on la joue. Et notre travail à nous, c'est... Bon, on apprend à jouer les notes, celles qui sont écrites, mais l'interprète, lui, il est là pour leur donner du sens. C'est-à-dire que celui qui va écouter la musique, jouée par l'interprète, il va percevoir le sens, l'émotion, sans devoir se poser la question de ce que ça signifie. On va lui apporter quelque chose qui doit le frapper. Et je crois que si on joue des notes de manière mécanique ou pas sentie, alors c'est dommage pour la musique. Donc nous essayons de donner du sens, oui, de l'intensité si possible.
Catherine Meurice, on parle de sens, on parle du temps aussi. Mira, à l'instant, parlait de l'importance du temps dans sa vie et depuis l'âge de ses 10 ans. J'ai l'impression que La Légèreté, c'est aussi un ouvrage sur le temps. Vous vivez un temps différent depuis le 7 janvier. Peut-être que vous avez aussi appris, non pas à paresser, mais à accepter qu'on peut perdre du temps et que cette perte est utile.
Oui, oui, exactement. Oui, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté le 7 janvier. Et il a fallu retrouver un autre temps, lui redonner de la matière, du sens.
Est-ce que c'est le temps de la contemplation ?
Oui, c'est ce que dit la dernière page de l'album d'ailleurs, hein. C'est vraiment ça, c'est comment retrouver la contemplation, comment ne pas se laisser, comment ne pas s'évanouir en fait, et retrouver une contemplation active aussi, enfin vraiment, le temps a une autre couleur en fait depuis le 7 janvier, et en effet si je choisis de me consacrer à la bande dessinée, si je laisse le dessin de presse on va s'atteler à l'actualité, on est pris dans ce rythme de l'actualité, ce temps-là ne m'intéresse plus, cette urgence-là ne m'intéresse plus, j'ai besoin du temps de la littérature, de la bande dessinée, d'une lenteur, comme ça, j'ai envie d'accepter cette lenteur, j'en ai besoin en fait. Ouais.
Le temps du poème aussi, puisqu'on évoquait la poésie avec Stéphane Hessel, qui nous disait à quel point dans les camps ça a été important pour lui, comme un secours, comme une couverture qui le réchauffait. Je voudrais qu'on écoute, dit par Michel Piccoli, un petit extrait d'un poème de Baudelaire, Élévation, extrait des Fleurs du Mal, ça dure 15 secondes, écoutez bien.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Va te purifier dans l'air supérieur. J'ai choisi cet extrait-là. Vous allez nous dire pourquoi. Parce que vous en faites mention dans La Légèreté, Catherine Meurice.
Oui, ce poème, pour moi, c'est Mustapha. C'est le correcteur de Charlie qui a été assassiné le 7 avec nos amis. J'ai cherché à me souvenir de ce que Mustapha m'avait dit la veille de l'attentat. Et je le dessine dans l'album. Je le dessine avec une bulle vide au-dessus de la tête. Parce qu'au début, je n'ai pas retrouvé ces mots. Je savais que sa phrase contenait le mot beauté. Je savais qu'il m'avait souhaité des vœux comme ça, très, très jolis. C'était formidable de parler avec Mustapha, qui connaissait extrêmement bien la langue française.
Qui était nourrie de poètes.
Qui était nourrie et qui adorait Baudelaire, qui savait le citer à tout moment. Et au fil du livre, je raconte comment je retrouve les mots de Mustapha. Et en fait, c'est un poème de Baudelaire, c'est le poème Élévation. Donc, je suis vraiment très touchée de l'entendre dit par Piccoli en plus. Et quand je retrouve les mots de le poème de Baudelaire et que je le mets dans la bouche de Mustapha, ben Mustapha ressuscite un peu dans mes pages. Donc cet album, c'est aussi un moyen de relever un peu les morts, le temps d'un livre en tout cas.
Vous avez suivi Mustapha et Baudelaire, vous vous êtes élevé depuis le 7 janvier.
Et oui, je n'y croyais pas, mais je me suis aussi accrochée à ce poème et je retrouve un petit peu de légèreté, justement, où je peux prendre un peu mon envol. C'est Philippe Lançon qui le dit dans la préface, qui est très belle, hein, la préface
Philippe
de l'album.
Philippe Lançon qui, lui, était présent à la conférence de rédaction, qui a été grièvement blessé,
voilà. Il a écrit une préface magnifique et il dit que, voilà, au moment où je décide d'aller à Rome, à la Villa Médicis, pour retrouver de la beauté, vraiment, je prends mon envol. Hein, donc on garde cette idée de l'albatros.
Nous parlons d'élévation, quoi de mieux que d'écouter Bach en évoquant cette élévation. Voici l'ensemble Ausonia avec le troisième mouvement Allegro assai du concerto pour violon en la mineur.
Thank you.
L'Allegro assai du concerto pour violon en la mineur par l'ensemble Ausonia en direct sur France Musique.
France Musique.
Ah, il faut tout faire ici, il faut jouer, il faut parler, c'est terrible.
Et courir entre les deux. Frédéric Haas, Miracle de Anou. Hier, nous recevions à ce micro Amandine Beyer, qui a joué avec son nouveau quatuor. Je trouve qu'il y a quelque chose de commun entre vous, un besoin de rendre la musique ancienne ou la musique baroque belle et bien vivante, belle et bien d'aujourd'hui.
Ah oui, ça, je crois que la vie, c'est essentiel, parce que, encore une fois, la musique existe au moment où on la joue. Donc, si elle n'est pas vivante, c'est pas de la musique, à la limite. Et alors, jouer de la musique écrite il y a 300 ans, est-ce que ça a du sens? Ben oui, parce qu'on la joue aujourd'hui. Mais à nous, à faire en sorte que cette musique paraisse évidente, donc ça suppose de bien comprendre comment elle fonctionne. Et pour qu'on ait l'impression qu'on ne se pose pas la question quand on écoute, est-ce que c'est vieux ou est-ce que c'est neuf? C'est maintenant, c'est la musique.
On a l'impression que cette musique qui a 300 ans n'a pas encore, pour vous, livré tous ses secrets, finalement. Mira.
En tout cas, le jour où ce sera le cas, on devrait devenir compositeur à notre tour, je crois. Mmh. Donc, pour le moment, on endosse ce vêtement d'interprète qui est effectivement de nos jours, c'est déjà pas mal parce qu'on a beaucoup d'histoires de musique et beaucoup de belles compositions derrière nous. Mais en effet, il s'agit de redécouvrir et de revoir un petit peu ces musiques. Avec Frédéric, on s'était dit depuis très très longtemps que chez Bach, il y a des influences des musiques traditionnelles, des musiques justement de l'Europe de l'Est, et que toute cette écriture très fleurie, pleine d'ornements, d'improvisation, pleine de vie, quelque part, on s'en réjouit dans les concertos, puisque comme il a composé énormément de musique sacrée, on a beaucoup de respect, disons, par rapport aux cantates, par rapport à tout le reste, et on se laisse moins aller dans ce monde de la musique vivante qui pouvait être juste venu du monde qui l'entourait aussi, du peuple.
Il y a quelque chose qui revient très souvent, Frédéric Haas et Mira, dans vos discours, c'est la notion de liberté. Comme si vous étiez tout le temps en train de rechercher cette liberté et que finalement, quand vous prenez votre instrument, ça devient presque un acte politique.
Oui, je crois que ça c'est important en effet, parce que bon, on sait que le monde n'est pas facile, beaucoup de choses se passent partout qui nous choquent énormément, qui nous font beaucoup de peine. Mais en tant que musicien, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, la politique, ça c'est un métier quand même. Alors on peut essayer de jouer de la musique d'une manière qui aussi porte du sens de cette façon-là. Moi je crois par exemple que, bon là nous jouons, alors on parle de direction musicale parce qu'il faut bien, et aussi parce qu'on essaie de créer un champ de force, disons, en jouant la musique qui fait que les choses vont se mettre ensemble et d'une manière qui n'est pas indifférente. Mais finalement, la musique se joue grâce aux personnes qui sont là. Donc je trouve que c'est très important d'essayer, pour moi en tout cas, de construire un ensemble qui est où chaque personne existe en tant que personnalité et qui s'exprime et qui est libre de le faire et non pas de créer une espèce d'esclavagisme où le chef autoproclamé décide de tout. Et à ce moment-là, la musique perd sa vie précisément. Et je crois que la musique nous oblige à faire des choix de vie qui sont quand même relativement forts dans la mesure où si on triche avec ces choses-là, la musique tout de suite se révèle morte et ennuyeuse. Alors le public se trompe pas d'ailleurs, il dit « Ah, je n'aime pas ça ». La grande musique, c'est pas pour moi. Mais ça, je crois que c'est de la faute des interprètes.
Ça vous parle, Catherine Meurice, que vous entendez là? Vous pouvez faire des rapprochements avec votre vie d'artiste qui dessine, qui illustre?
Oui, ça me parle. Et je me disais que quand on est dessinateur, on a beaucoup de chance parce que non seulement vous nous transmettez une émotion grâce à la musique en jouant, mais on peut aussi vous dessiner. J'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup croqué des musiciens. Mais depuis que je suis étudiante, hein, j'allais au conservatoire, j'avais un ami qui était oboïste au conservatoire et j'ai croqué énormément de musiciens. Et alors c'est formidable de suivre la ligne de vos instruments tout en vous écoutant jouer. Vous êtes en nous. Non, c'est une chance.
Vous allez peut-être reprendre ce type de dessin-là.
Ah oui.
Vous n'avez pas votre carnet là, c'est le moment, regardez.
Non, mais parce que je me concentre sur ce que vous me dites.
Sur ce que je vous dis, c'est bien. Je vous remercie de ce bel effort.
Voilà, Frédéric et Mira, on rejoint le centre du studio 107. Prenez le temps de vous accorder, si vous le souhaitez, le temps que j'annonce ce disque, donc Jean-Sébastien Bach, les concerti, l'ensemble Ausonia qui paraît chez Itasura. Et puis l'ensemble Ausonia est en concert ce soir à Paris au centre Wallonie, Bruxelles. Ils vont interpréter maintenant le concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052. Le premier mouvement, c'est un allegro. L'ensemble Ausonia en direct sur France Musique. Le premier mouvement du concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052, Jean-Sébastien Bach, par l'ensemble Ausonia.
Tiens, mais c'est Julie, Julie Clarini.
Bonjour.
Vous allez bien, madame?
Très bien, monsieur.
Madame, j'aime bien vous dire madame. Madame du monde des livres, vous êtes venue effectivement avec un livre, et pas seulement un livre, mais en tout cas, il y a déjà Une enfance dans la guerre, Algérie 1954-1962. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ce sont des souvenirs d'enfance, d'enfants dans la guerre qu'a rassemblé Leïla Sebar, qui est une romancière qu'on connaît, une écrivaine. Les enfants dans la guerre, alors moi je trouve que c'est un très beau thème, ça mériterait sans doute discussion, mais mon hypothèse est que l'une des caractéristiques de l'enfance, c'est un rapport différent justement à l'événement. Dans une vie d'enfant, les choses adviennent et elles adviennent sans que s'établisse une hiérarchie immédiate entre eux. C'est intime, c'est public, c'est tragique, c'est historique, c'est anecdotique. Certaines choses laissent des traces, c'est comme ça, d'autres laissent indifférent quand on est enfant, mais c'est tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je pense, ce recueil de textes sur l'enfance en guerre est particulièrement intéressant. Leïla Sebar a donc demandé à une quarantaine de personnes, c'est très riche, une quarantaine de personnes de sa connaissance, d'écrire leurs souvenirs à l'époque, leurs souvenirs de la guerre d'Algérie. Des souvenirs à eux, évidemment, des souvenirs propres, des conversations surprises, des chocs reçus. Alors, parfois, ce choc, c'est une image aperçue à travers les volets clos ou dont on a été témoin alors qu'on n'aurait pas dû l'être. Parfois, comme ça, en pleine rue, ça peut être un meurtre commis en pleine rue qui, tout d'un coup, ruine des efforts, les efforts des parents pour protéger les enfants, pour les tenir à distance de la violence. C'est ce que raconte Daniel Mesguich, qui est le metteur en scène que vous connaissez, Vincent, qu'on connaît, je pense, nos auditeurs aussi. Il le raconte dans un très beau texte où il évoque la mémoire sa mémoire à trous de la guerre d'Algérie. Mémoire à trous parce qu'auparavant, cet enfant d'Alger, pour cet enfant d'Alger, la rumeur de la guerre n'arrivait que ouatée. Il dit que c'était comme derrière les compresses de gaz qu'on lui mettait pour soigner ses otites. Et puis, il dit mémoire à trous aussi parce que pour vivre une guerre, je le cite, il faut un ennemi et moi, je n'en avais pas. Mémoire à trous aussi parce que le sang de Mohamed, le gentil clodo, a rempli un trou. Le trou dans le trottoir juste devant lui. Voilà, ce sont ce genre de textes qu'on trouve ici. Il y a par exemple aussi un beau texte du réalisateur Mehdi Chérif qui a vu pendre au bout d'une corde le corps de sa tante Karima, Karima qui avait nourri et caché les combattants FLN.
Vous êtes venu avec d'autres livres ?
Non, je suis venu avec une autre recommandation.
De nos frères blessés.
Voilà, c'est ce livre de Joseph Andras qui est sorti chez Actes Sud. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Jury du premier Goncourt s'était réuni et puis dernier moment a surgi ce livre. C'est toujours comme ça, une semaine avant, et finalement, c'est lui qui a remporté la palme, la récompense. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de ce militant communiste, Fernand Yvetot, qui avait posé une bombe dans son usine en Algérie, donc dans un combat anticolonialiste. Il a posé une bombe qui d'ailleurs n'a pas explosé, mais qui en plus était censée ne viser personne et ne tuer personne. Donc, tout ça, c'est bien terminé, et en plus, il n'y avait pas vraiment de visée meurtrière, mais ça lui a quand même valu, il a été arrêté, ça lui a valu la peine de mort pour l'exemple. Et alors, Joseph Andras signe sur ce sujet, sur cet homme, un très beau texte, dense, court, très sombre, avec une sorte de lyrisme contenu. Et alors, c'est intéressant parce que c'est une façon à nouveau d'incarner la guerre d'Algérie, hein, comme ce texte essaye d'incarner la guerre d'Algérie à travers des souvenirs d'enfance, parce que les enfants, ils se souviennent d'abord de sensations, et c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et puis, je voudrais juste dire quand même que Joseph Andras a refusé cette récompense, vous le savez peut-être.
Voilà.
Parce qu'il a dit qu'il voulait s'en tenir au désir profond. Il avait le désir profond de s'en tenir au texte, pardon, aux mots et aux idéaux portés, à la parole occultée d'un travailleur et militant de l'égalité sociale et politique.
Voilà, bah merci Julie. Je rappelle ce que vous nous conseillez, recommandez ce matin, Une enfance en Algérie d'une part, et puis De nos frères blessés de Joseph Andras chez Actes Sud sur le même thème. Passez une bonne semaine.
Merci.
On revient à vous. Catherine Meurice, auteure de La légèreté, vous décidez, pour aller mieux, d'aller à Rome, à l'Académie de France, qui vous loue une chambre pendant un petit peu plus d'un mois.
Mm-hmm.
Et vous vous promenez souvent, c'est en novembre, alors il ne fait pas très beau, on vous voit avec votre petit imperméable en train de regarder les sculptures, à qui il manque des bras, à qui il peut manquer une tête. Et c'est très important ces manques, vous les décrivez, vous les expliquez et vous les reliez au drame, à la tragédie du 7 janvier.
Oui, je suis arrivée à la Villa Médicis peu de temps après les attentats du 13 novembre et je pensais fuir les massacres et en fait je les ai retrouvés à travers les œuvres d'art romaines. Je m'y attendais pas du tout, mais j'ai pris cette violence du monde en fait en pleine figure, mais sublimée à travers les sculptures notamment. Et c'est vrai que j'étais attirée, obsédée par ces marbres mutilés, démembrés, alors qu'ils n'étaient abîmés que par le temps bien sûr ou par peut-être certains passages de barbares aussi, mais adoucis, quand même polis par le temps. Et je ne voyais que ces corps. J'avais l'impression de retrouver le corps de mes amis, en fait. Mais ces corps étaient beaux, parce qu'ils étaient de marbre blanc, scintillant. Donc, j'étais pas du tout dans un cimetière, en fait. J'étais au milieu, parmi des... dans la beauté, en fait. Donc, je crois que ça m'a permis de circonscrire un peu la violence, de la cerner, de l'adoucir.
Et puis, il y a des pensionnaires, parce qu'il y a des artistes pensionnaires à qui on permet, l'État permet de travailler en leur donnant une bourse et d'être dans ce lieu magnifique, de résider là-bas, qui vous prête leur atelier. Racontez-nous ce moment-là, parce que vous allez dessiner dans cet atelier.
Oui, c'est l'atelier d'Ingres. Alors, moi qui suis absolument fan de Delacroix et d'Ingres, je sais qu'il savait pas, il s'appréciait pas trop à l'époque, mais moi j'aime les deux. Oui, l'atelier d'Ingres. Ingres a été directeur de la Villa Médicis, comme Balthus, comme d'autres artistes prestigieux, et c'était un miracle pour moi de pénétrer dans cet endroit.
Alors, ça vous inspirait?
Oui, ça m'a inspiré, ça m'a apaisé, ça m'a fait rêver. J'ai pris des notes, j'ai surtout beaucoup observé. Ça a réactivé la rêverie, en fait. Oui, ça c'était important pour la suite, pour pouvoir
refaire des livres. Parce que vous aviez perdu pas mal de choses avec ce traumatisme. On l'a dit tout à l'heure, la mémoire, une partie de votre mémoire. D'ailleurs, quelle mémoire aviez-vous perdu? Vous n'ayez pas perdu totalement la mémoire.
C'est-à-dire quand même tout ce qui s'était passé avant le 7 janvier avait disparu. Je ne me souvenais plus de rien. J'oubliais même le début de mes phrases. Je n'entendais pas ce qu'on me disait. Et puis vraiment, je me souvenais plus de tout ce qui s'était passé avant le 7.
Comme si les terroristes, en plus d'avoir tué vos amis, avaient tué le langage.
Oui, exactement. C'est ce que j'écris dans le livre. D'ailleurs, pour moi, c'est le terrorisme et l'ennemi du langage. Et je parlais tout à l'heure de Mustapha, le correcteur. Et pour moi, Mustapha symbolise aussi le langage. Et quand je racontais que je dessinais une bulle au-dessus de sa tête vide, c'est ça, c'est le langage qui est mort, en fait, le 7 janvier, et qu'il faut retrouver.
Alors vous allez chez le psy, et il vous dit, vous êtes dissocié. Comme si le cerveau faisait en sorte que vous continuiez à vivre, mais en mettant en sommeil des éléments de votre vie.
Oui, c'est ça, la dissociation, c'est un mot que j'ai découvert l'an dernier, et c'est ça, c'est être dans le monde, mais bon, c'est comme s'il y avait une vitre qui vous séparait du monde, en fait. Donc vous n'avez plus d'émotions, plus de colère, plus de peur, pas de chagrin. Je savais pas où était le chagrin, c'était très étrange, j'étais anesthésiée, en fait, comme... dans un état de sidération. Et voilà, donc vous êtes un peu, vous dédoublez, vous êtes là, vous vous regardez souffrir, c'est très étrange. Et j'ai choisi de me dédoubler aussi dans ce livre, c'est-à-dire que je me dessine en train de cheminer dans ce livre. Là, j'avais besoin de ce dédoublement pour me voir marcher, pour me voir en vie, ne serait-ce que dans sur du papier, dans un livre.
Vous êtes contente de ce que vous avez fait, la légèreté?
Contente, non, on n'est jamais. Il faut.
Vous avez conscience que c'est formidable?
Je peux pas le dire, mais non, ce que je peux dire maintenant, attention, je vais sortir une phrase de Proust, mais que j'ai retrouvée, parce que maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, j'ai rouvert les livres. Les idées sont des succès d'années des chagrins, bien sûr, et dès qu'on commence à transformer les idées en chagrins, les idées perdent leur nocivité. Et le fait de transformer cette transformation, en bande dessinée en l'occurrence, procure une certaine joie. Et maintenant que j'ai sorti ce livre et que j'ai des retours, je commence à dire que je suis heureuse d'avoir fait ce livre et heureuse de constater qu'il se partage, parce que j'ai vraiment cru que j'allais être toute seule, en fait. Je suis toute seule dans ce livre et j'ai cru que ça ne parlait que de moi, en fait, pas du tout. Et ça me soulage. Et voilà, donc je peux dire que j'éprouve une certaine joie. En tout cas, c'est le début des retrouvailles avec la joie, avec un grand J.
La légèreté chez Dargo, c'est Catherine Meurice que j'embrasse.
Et moi aussi.
Merci beaucoup, Frédéric Haas, Miracle de Hanoun, d'être venu ce matin, et à tous les musiciens de votre ensemble, Ossonia. On vient vous voir en concert ce soir au Centre Wallonie-Bruxelles, c'est à Paris. Demain aux Pays-Bas, le 30 au Beaux-Arts de Bruxelles en Belgique, et puis vous serez à Toulouse les 4 et 5 juin. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que votre disque consacré aux concertis de Bach vient de paraître chez Itazura. We'll be right back. Voilà, on se quitte avec un de vos choix musicaux, Catherine Meurice, Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, l'introduction et puis la Marche royale du Lion.
Pour vous, c'est un dessin, ça?
C'est un dessin. Mmh. C'est un dessin de Grandville, de Cabu, de Daumier. Oui, c'est un dessin et c'est un souvenir d'enfance. J'ai grandi avec Le Carnaval des animaux, oui. Oui.
Demain, nous recevons la chef d'orchestre franco-algérienne Zaya Ziwani. Et dans la session musicale, eh bien, on va prendre nos chaussures parce qu'on va danser le flamenco.
Avec le quatuor Caliente.
Vous nous imaginez danser le flamenco?
Très très bien. Oui.
Très très bien. Cette émission a été préparée avec Francesca Fossati, Françoise Monteil, Juliette Libartowski, Garance Lemniaï, Anne Plantier, Céline Parfenoff et Gilles Blanchard l'ont réalisée. Il y avait ce matin Nicolas à la technique,
Marie Jaworski,
Jason Taous,
Stéphane Touvenin
et Victor Buton. Merci d'écouter France Musique. Il est pile 9h.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.